101.5 FM.
Le pouvoir possède la radio et la télévision.
On ne peut pas savoir où on est ni où on va si on ne sait pas d'où on vient. Pas besoin d'être un grand savant pour s'intéresser à l'histoire, la géopolitique ou l'économie. Surtout quand c'est expliqué par une bande de profs d'histoire géo qui n'ont pas la langue dans leur poche. Des exposés parfois assez différents de ce qu'on nous dit à l'école et dans les médias dominants. L'histoire, la géopolitique et l'économie s'intéressent à vous. Intéressez-vous à elle les samedis à 12h sur Radio G avec Polémix et la voix off.
Le pouvoir possède la radio et la télévision.
Eh bien, c'est maintenant le grand rendez-vous.
Nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde.
La voix off.
Bonsoir, posez votre question.
Bonsoir messieurs, je voudrais savoir si à 6h heure française, s'il y a conflit, est-ce que ce serait une guerre mondiale? Et si oui, est-ce que ce serait éventuellement la fin du monde?
Ce ne sont pas les Européens qui décident de leurs alliances, de leurs accords, etc. Ce sont les États-Unis. La situation actuelle est entièrement fabriquée par Washington. Et là-dedans, on est des guignols, hein, des bouffons. Sauf que c'est nos vies qui sont en cause. Nous sommes engagés dans une politique d'affrontement dirigée uniquement contre la Russie ou une Russie seule. À la place d'une politique de paix, de négociation et d'accord, on a fait une politique entièrement de suivisme à l'égard de la politique américaine. Et voilà où cela nous a menés. C'est ça qui a provoqué cette crise.
C'est une guerre.
Ça ne justifie pas l'agression russe contre le peuple ukrainien, mais ça l'explique. Et si on veut faire une négociation, il faut comprendre. Il ne suffit pas de stigmatiser, de diaboliser l'adversaire en disant « Bah, je ne négocie pas avec le mal ». C'est ridicule. Il faut négocier avec les Russes, et c'est pas avec les Américains qu'il faut négocier. Les Américains, ils sont très loin. Ils ne vont pas intervenir.
Salut les amis, c'est JBD, c'est la voix off avec notre ami André, le prof d'histoire géo. Au précédent épisode, on vous rappelait avec Cédric que la première victime d'une guerre, c'est toujours la vérité. Et aujourd'hui, loin de légitimer la guerre de la Russie de Poutine contre l'Ukraine, André va nous rappeler quelques faits historiques qui nous permettront peut-être, non pas d'excuser l'inexcusable, mais de mieux comprendre l'actuelle agressivité des Russes. Vous le savez, hein, le monde n'est pas exactement divisé entre les gentils, c'est-à-dire nous, et les méchants, qui sont toujours les autres. Des autres qui, en plus d'être méchants, sont idiots, hein, puisqu'ils pensent que c'est nous les méchants, les sots. Non, le monde est plus complexe que ça. Et au cours de cette première partie d'exposé qui couvrira la période 1991-2008, André nous rappellera que la Russie post-URSS n'a pas toujours semblé aussi hostile qu'aujourd'hui. Et puis à la fin de cette première partie d'exposé d'André, on clôturera cette émission avec une remarque sur les médias de notre ami Philippe Arnaud. La guerre en Ukraine, c'est à nos portes, on en parle pendant une heure. Salut André.
Bonjour à tous.
Au moment de l'enregistrement de cette émission, nous sommes tout début mars 2022 et on a décidé de se servir de l'édition de février 2022 du Monde Diplomatique qui, à sa une, affichait « Ukraine, pourquoi la crise ?» Les Européens hors jeu a signalé que cet article est paru avant l'attaque russe en Ukraine qui, au moment où on se parle, a eu lieu environ il y a une semaine. Sujet délicat, douloureux, c'est la guerre. Et puis pour commencer cette émission, te rapporter, André, des échos, des conversations que j'ai pu avoir ici et là avec des amis et qui, comment leur en vouloir, se fient à ce que disent les médias. Il est quand même beaucoup question dans les analyses d'impérialisme russe et du méchant Vladimir, le loup-garou habituel. Est-ce que la situation ne serait pas un peu plus complexe que ça?
Bon, dans la situation actuelle, dramatique, hein. J'ai pleinement conscience de son caractère hautement explosif. Tout propos concernant l'affaire est passionné. Il est difficile d'en parler avec recul, avec objectivité. De toute façon, le malheur est arrivé, ça y est. Je pense que la situation va pourrir, qu'on va tout faire pour qu'elle pourrisse, hein, des deux côtés. Et pourtant, je pense que au départ, lorsque j'ai préparé l'article, en gros, mon sujet, c'était comment en est-on arrivé là ? Et comment peut-on en sortir ? Parce qu'il faudra bien négocier. Parce que c'est ou la paix, ou la guerre. Et si c'est la paix, c'est la négociation. Et une négociation se fait forcément avec ses adversaires, ou avec des gens avec lesquels on n'est pas d'accord, par définition. Une négociation se fait avec des gens même qui ne nous plaisent pas, que nous n'aimons pas, etc. C'est, voilà pourquoi je fais un petit préambule en forme de précaution oratoire. Je suis horrifié par cette guerre, comme tout le monde. Il va y avoir des victimes, et une quantité de réfugiés, ça va être une chose épouvantable. Dans notre Europe, hein, dont on a dit qu'elle était en paix, etc., en oubliant un petit peu la guerre de Yougoslavie, soit dit en passant, eh bien, c'est inacceptable pour les Européens. Et ça, je comprends ce sentiment, je le partage. Et il faut pourtant en parler, il faut essayer d'en parler sans passion, sans parti pris, sans violence. Moi, je ne suis pas un va-t-en-guerre, hein. Je suis pas comme les petits Bernard-Henri Lévy, là. Ces gens-là sont dangereux. Ces gens-là sont dangereux. Ils nous ont déjà entraînés, plus ou moins. Ils ont accompagné des guerres, des aventures guerrières, ici et là, qui se sont avérées désastreuses. Et au départ, pourtant, là, ces guerres étaient justifiées, etc. Bon.
Tu fais référence à la Libye, là, par exemple.
La Libye, la Géorgie. Enfin, ces gens-là, ce sont des agitateurs dangereux. Non, il faut en parler. Il faut dire ce qui s'est passé. Pourquoi ça s'est passé ? Alors, je vais encore paraître prétentieux, mais ça ne m'étonne pas, moi. La situation telle qu'elle se poursuit, telle qu'elle s'est aggravée avec l'attaque russe, on peut dire depuis 2-3 ans, c'était déjà la possibilité, une possibilité.
Avant que tu ne te lances, André, je nous propose la lecture de l'introduction de cet article du Monde diplomatique de février, hein, « Ukraine, pourquoi la crise ? Les Européens hors jeu ?» Un article de David Turtry, chercheur associé à l'Institut national des langues et civilisations orientales, et apparemment spécialiste de la Russie. Alors qu'il s'alarme d'une montée des tensions en Ukraine, les Européens sont les grands absents des négociations ouvertes entre Moscou et Washington. En s'alignant sur les États-Unis, Paris et Berlin ont poussé la Russie à traiter directement avec ces derniers et laisser le vieux continent redevenir un terrain d'affrontement entre les deux puissances. Et là, je me permets à nouveau une remarque personnelle, André, mais c'est vrai qu'on a suffisamment parlé, notamment de 14-18. Je trouve la propagande guerrière, c'est tellement pratique d'avoir un méchant, hein. Ça nous évite de regarder les méchants de chez nous, d'ailleurs, hein. Je veux dire, moi, ce que je dis aux gens, à chacun son poutine, hein. C'est très bien de taper sur le poutine des autres. Peut-être qu'on pourrait faire le ménage chez nos poutines à nous, hein, en se demandant, par exemple, ce que fait la France en Afrique depuis des décennies ou autre. Mais je suis assez terrorisé par cette propagande guerrière. Alors, comparaison n'est pas raison, on peut pas comparer 2022 et 1914. Mais enfin, je trouve que les discours va-t-en-guerre et guerriers des médias dominants sont effrayants.
Oui, alors là, je souscris entièrement à ce que tu viens de dire, hein. N'oublions pas qu'en 1914, Jaurès était bien seul, très seul. Il y avait eu 2-3 intellectuels qui étaient sur cette ligne de la paix. Mais enfin, Jaurès a été assassiné dans l'indifférence générale et dans l'enthousiasme de la patrie pour aller faire la guerre aux Boches, hein. Bon, un homme, Romain Rolland, s'est déclaré au-dessus de la mêlée du nom du texte qui restait, qui est tout à fait à son honneur, hein, où il dénonce les fauteurs de guerre. Et quand il dénonce les fauteurs de guerre, c'est pas seulement les Boches, hein. Toujours est-il qu'aujourd'hui, le discours dominant, c'est « Ah, la guerre de 14-18, grosse malheur, guerre fratricide entre les peuples ». Non mais t'aurais dit ce discours-là en 1914, tu te faisais coller contre le mur, quoi. Alors aujourd'hui, le risque est moins grand pour moi, hein, d'être assassiné parce que je vais dire des choses déplaisantes, hein, mais quand même, je rappelle que la propagande de guerre, c'est la propagande de guerre, hein, et je rappellerai encore une parole très connue, la première victime de la guerre, c'est la vérité. Alors moi, on va essayer de redire, hein, de prendre un peu de recul et de voir les choses. Toujours en préambule, je dis que je n'ai aucune sympathie particulière pour Vladimir Poutine, ni pour le régime politique de la Russie. Il y aurait beaucoup à dire sur la liberté de la presse en Russie, etc. Quant au régime économique et social, c'est le capitalisme oligarchique le plus cru qui existe en Russie. C'est plus le communisme. Mélenchon qualifie la Russie de pays nationaliste. Effectivement, c'est une politique nationaliste propre à un pays capitaliste tout à fait ordinaire. Et ils ne sont pas les seuls là, sur cette ligne-là. Bon, cependant, il n'y a plus de totalitarisme communiste, etc. Il n'y a plus de goulag, etc. Bon, j'ajoute une chose aussi. Est-ce que, parce que le régime de Poutine ne nous plaît pas, on est obligé d'adopter à son égard une politique totalement et en permanence agressive ou négative? Et la question n'est pas est-ce que Poutine est sympathique, est-ce que la Russie est une démocratie. Notre sujet, c'est tout à fait autre chose. C'est comment faire la paix, comment intégrer la Russie en Europe, comment établir en Europe une situation de paix permanente et avec des frontières reconnues et qui ne sont pas en permanence remises en cause. Comment sortir de cette situation? Bon, on pourrait d'ailleurs faire un parallèle entre Poutine et Saddam Hussein ou Kadhafi, etc. C'est-à-dire que c'était des régimes qui n'étaient pas des régimes sympathiques, démocratiques. Est-ce qu'on était quand même obligé d'aller faire la guerre chez eux?
Après les avoir soutenus, en ce qui concerne l'Irak de Saddam Hussein et Kadhafi qui étaient très sympathiques à un moment, que Sarkozy a reçu avec tapis rouge, tout comme Bachar el-Assad, qui a été l'invité d'honneur du défilé du 14 juillet 2008, et qui est depuis redevenu l'ignoble dictateur syrien qu'il fallait abattre.
Bien sûr. Bon, donc je me résume, je ne ferai pas un plaidoyer en faveur de Poutine ou de la Russie. Il s'agit d'expliquer comment on en est arrivé là. C'est pas parce que c'est des méchants qu'on en est arrivé là, il y a d'autres causes. Donc je me contenterai de pointer tout ce qui n'a pas été fait pour la paix, ou plutôt tout ce qui a été fait contre la paix, depuis déjà quelques années. Je voyais hier un documentaire sur Arte concernant l'affaire ukrainienne. C'était marqué « Les origines du conflit ». Et alors ce reportage remontait à 2014, la situation en 2014. Mais c'est une fumisterie. La situation remonte d'avant 2014. En 2014, on peut dire quasiment que les jeux sont faits déjà. Le mal est fait déjà. C'est beaucoup plus haut qu'il faut remonter. Alors, je ne veux pas remonter au Moyen-Âge. Non, il faut remonter précisément à la fin de la guerre froide, tout au début des années 90. Alors, je vous rappelle rapidement, je ne veux pas m'étendre là-dessus. Les dirigeants soviétiques, c'est Mikhail Gorbatchev à l'époque, conscient de l'économie soviétique, de la ruine d'une partie de l'économie soviétique et des fractures à l'intérieur de la société soviétique, comprenant qu'il ne peut pas supporter le poids de la guerre des étoiles, qui est un programme militaire initié par Reagan concernant à faire des missiles, antimissiles, etc. La Russie n'en a pas les moyens. Elle sait qu'elle va être dépassée. Et que donc, dans la dissuasion nucléaire internationale, elle va être dépassée. Donc, Mikhail Gorbatchev engage son pays dans des réformes internes et dans un véritable bouleversement stratégique et diplomatique. Il décide unilatéralement de renoncer à la stratégie d'affrontement avec le bloc occidental. C'est une décision de l'URSS et des dirigeants de l'URSS à cette époque-là. Il s'agit en Europe en particulier de dissoudre le pacte de Varsovie et de rendre leur liberté aux pays de l'Est qui étaient sous la tutelle soviétique depuis le début de la guerre froide. C'est énorme, c'est considérable. C'est ce qui a permis la destruction du mur de Berlin, la réunification de l'Allemagne. Sans la décision soviétique, tout ça n'aurait pas été possible. Or, cet empire soviétique, il se dissout lui-même, sans drame.
Sans qu'un seul coup de feu ne soit tiré, d'ailleurs, c'est tout à fait remarquable.
Absolument.
La fin de l'URSS, c'est 91,
C'est cela. Donc à partir de ce moment-là, il n'y a plus d'affrontement Est-Ouest, il n'y a plus de guerre froide. Parler d'un retour à la guerre froide, c'est une supercherie intellectuelle. Il n'y a plus de guerre froide, il n'y a plus de bloc idéologique avec des pays qui sont alliés à l'un, alliés à l'autre, etc. Non, il y a affrontement, mais il n'y a plus de guerre froide. Alors, bien sûr, l'Empire soviétique s'autodissout. En revanche, l'impérialisme américain, lui, reste bel et bien vivant. C'est la fin de l'URSS. Bon. Et à ce moment-là, donc, la politique de dissuasion nucléaire et d'affrontement entre les deux blocs cesse, en Europe en particulier. À ce moment-là, les responsables occidentaux et même américains promettent à Gorbatchev que l'OTAN ne s'étendrait pas à l'Est dans ces pays rendus à la liberté. C'est une promesse, ça a été fait, c'est clair. En fait, il n'en a rien été. Là est le début du drame. Il n'en a rien été. Au lieu d'élaborer une stratégie pour intégrer cette nouvelle Russie, qui n'est plus communiste, totalitaire, etc., dans l'Europe, on a tout fait pour, au contraire, l'en éloigner et l'en dissuader. Dès 1997, l'élargissement de l'OTAN à l'Est est acté. Je rappelle quand même ce que c'est que l'OTAN. L'OTAN, c'est le pacte militaire lié à l'Alliance Atlantique signé en 1949 entre les États-Unis et leurs alliés d'Europe occidentale.
Organisation du traité de l'Atlantique Nord.
En fait, l'alliance, effectivement, est transatlantique, hein, entre les États-Unis, le Canada, la Grande-Bretagne, les pays d'Europe occidentale. Notons que 1949, c'est la naissance de l'Allemagne de l'Ouest. Les États-Unis organisent la réunification des trois zones d'occupation occidentale pour créer un État, l'État allemand, qui va devenir un État anti-soviétique, anti-communiste, virulent, hein, et qui va, dès le départ, remettre en cause la situation née de la défaite allemande en 1945. Et certains responsables occidentaux vont s'inquiéter de ce rejet, en quelque sorte, de la paix avec les Russes. Mitterrand lui-même est très sceptique sur la situation qui se crée à cette époque-là. Il va d'ailleurs comparer ce qui se prépare à une nouvelle Sainte Alliance. Alors je rappelle, la Sainte Alliance, en 1815, après la défaite de Napoléon à Waterloo, les grands États aristocratiques européens se regroupent, hein, Russie, Prusse, Empire d'Autriche, pour créer une Sainte Alliance contre tout mouvement libéral qui pourrait naître en Europe à cette époque-là. La Russie en fait partie d'ailleurs, hein, soit dit en passant. Il s'agit en fait d'un truc dirigé contre la France qui pourrait reprendre son discours révolutionnaire, ou même contre tout peuple d'Europe qui voudrait une révolution libérale, anti-aristocratique. Voilà. Et pour Mitterrand, ben, on refait la même chose contre la Russie, c'est-à-dire que les États occidentaux sont en train de refaire une alliance contre la Russie qui n'est plus l'URSS.
Quel était l'argument invoqué ? L'Occident a fait la guerre à l'URSS, froide ou chaude, pendant des décennies, voilà. Et on continue à haïr les Russes, à les montrer du doigt, alors qu'ils sont plus communistes. Qu'est-ce qu'on leur reproche ?
Il n'y a pas de reproche, il n'y a pas de discours pour justifier cette chose-là, qui est la perpétuation d'un OTAN dirigé contre la Russie. Il n'y a pas de discours, il y a simplement une politique américaine, c'est Washington, suivie, tant bien que mal, par les États d'Europe occidentale. Je vais vous donner un autre exemple de ces gens qui, dans les années 90, mettent en garde l'Occident contre une telle politique. Et il s'agit de George Kennan, qui est un Américain, qui était considéré comme l'architecte de la politique d'endiguement contre l'URSS. Donc on ne peut pas être soupçonné de sympathie à l'égard des Russes, hein. Mais il prédit les conséquences aussi logiques que néfastes d'une telle décision. C'est tiré d'un article de George Kennan dans le New York Times du 5 février 1997. Alors j'ouvre les guillemets. L'élargissement de l'OTAN serait la plus fatale erreur de la politique américaine depuis la fin de la guerre froide. On peut s'attendre à ce que cette décision attise les tendances nationalistes, anti-occidentales et militaristes de l'opinion publique russe. Qu'elle relance une atmosphère de guerre froide dans les relations Est-Ouest et oriente la politique étrangère russe dans une direction qui ne correspondra vraiment pas à nos souhaits. Fermez les guillemets. Je vous demande de réfléchir quelques minutes sur ce que vient de déclarer Kennan en 97. Il est en train d'annoncer ce qui se passe aujourd'hui. Exactement. C'est-à-dire la Russie redevenant une nation nationaliste opposée, défendant âprement ses territoires et ses intérêts et opposée à l'Europe occidentale.
André, si je creuse dans mes souvenirs très vagues des années 90, qu'est-ce que l'Occident, qu'est-ce que nos médias ont pu se moquer des Russes, hein, ils avaient perdu la guerre froide, ils avaient eu tout faux sur le communisme et l'URSS, on les a traînés dans la boue, on s'est moqué d'eux, ils étaient gouvernés par Yeltsin, l'alcoolique, hein, qu'on trouvait très bien, les entreprises russes ont été vendues au Copec symbolique, ces gens-là ont été piétinés, je n'ai pas l'âme slave, j'ai pas d'icône orthodoxe dans ma chambre, j'ai pas de poster de Vladimir Poutine au-dessus de mon lit, mais enfin, je peux comprendre ce que ça peut être que l'humiliation d'un peuple, et je crois, dans mon souvenir, que ça a été le cas. Dans les années 90, on s'est foutu de leur gueule. D'autant plus que le pays tombait en Bérésina, les fonctionnaires n'étaient plus payés, etc. Et puis, bah, d'un seul coup, voilà qu'il y a un Poutine qui se pointe au pouvoir. Et alors, je ne suis pas un admirateur de Poutine tout comme toi. Hein. Je pense de Poutine ce qu'on peut bien en penser et en voir. Mais j'ai comme l'impression que ce type a redonné un peu de fierté à son pays. Alors, je ne suis pas russe, mais j'essaye de faire l'exercice de comprendre la situation depuis la fenêtre d'un russe. Et quand tu as été une grande puissance et qu'on s'est foutu de ta gueule et que d'un seul coup, un type arrive au pouvoir pour bomber le torse, et puis aussi, accessoirement, faire en sorte que les fonctionnaires soient à nouveau payés. Voilà, et c'est ce que je dis souvent aux gens, je dis, je légitime pas le truc, mais quand on fait la guerre à un pays, hein, fût-elle chaude ou froide, faut pas s'étonner qu'à un moment, potentiellement, bah, quand tu fais la guerre à un pays, qu'un chef de guerre apparaisse à la tête du pays en question. Et la guerre, bah, c'est pas sympathique, ni joli, ni poétique. Et ça donne des personnages, effectivement, comme Poutine. Mais est-ce qu'il n'y a pas une mécanique des choses qu'on pourrait peut-être se donner la peine de comprendre ?
Mais oui, d'ailleurs, je voudrais profiter de ton intervention pour donner un autre exemple d'empire sur le point d'être liquidé. Prenons l'Empire ottoman à la fin de la guerre 14-18. Les Turcs, l'Empire ottoman, capitale Istanbul-Constantinople, avaient choisi l'alliance avec l'Allemagne, les empires centraux, l'Allemagne et l'Autriche. Ils sont vaincus, les Anglais interviennent au Moyen-Orient, et la défaite de la Turquie va sonner le dépeçage du pays, c'est-à-dire on va lui prendre, les Anglais prennent ça, les Français prennent ça, on promet même aux Italiens une partie de l'Anatolie, aux Grecs la côte de la mer Égée, de l'Anatolie, aux Arméniens un territoire à l'est de l'Anatolie. Bon, bref, non seulement l'Empire turc est vaincu, mais il est dépecé, il est promis à la destruction. Cet empire qui a été un empire extrêmement puissant, qui s'étendait jusqu'en Europe, qui était bien l'égal de la France, etc., qui était un énorme pays au XVIe et au XVIIe siècle, ce pays est promis à être découpé en tranches par les impérialismes occidentaux. Et il va se passer une chose, c'est une réaction nationale. Alors, la réaction nationale prend le visage de Mustafa Kemal, on appellera plus tard Atatürk, le père des Turcs, qui va organiser avec les militaires turcs un mouvement de sursaut nationaliste. Il va chasser les étrangers, il va... Alors bien sûr, la Turquie ne redeviendra pas dans les limites de l'Empire ottoman de 1914, mais quand même, dans l'histoire, il va perdre tout le Moyen-Orient, une partie de l'Arabie, enfin bon... Mais il va se regrouper autour de l'Anatolie. D'ailleurs, la capitale ne va se déplacer, ne sera plus à Istanbul, mais à Ankara, l'ancienne Angora. Bien, malheureusement, ce sursaut national qu'on pourrait comparer à un sursaut d'esprit de conservation, de préservation, de survie, va s'accompagner de massacres, va s'accompagner de violences épouvantables contre les Grecs, contre les Arméniens, etc., contre toutes les minorités nationales qui avaient été instrumentalisées par les Occidentaux pour dépecer la Turquie. Alors, je ne dis pas que la situation est comparable, hein, tu l'as dit, comparaison n'est pas raison, les faits ne se reproduisent jamais dans les mêmes termes, etc., mais on peut quand même réfléchir à ça. Lorsque les puissances impérialistes dépècent un pays, il faut quand même prendre conscience qu'il peut y avoir un sursaut national. D'ailleurs, la Chine elle-même, lorsqu'elle se réveille, elle se réveille contre le dépeçage par les puissances impérialistes. D'abord sous forme d'un mouvement nationaliste, le Kuomintang de Chiang Kai-shek, puis ensuite après sous la forme des communistes de Mao, etc. En même temps qu'une révolution avec Mao Tse-tung, c'est aussi un mouvement de récupération de la Chine. Cet immense empire qui a été puissant et qui a rayonné sur le monde aussi a été mis à l'encan par toutes les puissances impériales. Il faut voir en 1900, hein, la guerre des boxers, etc. Eh bien, la Chine était soumise complètement et destinée à terme à être découpée, tout simplement. Le sursaut, ça a été la révolution chinoise avec toutes ses violences, etc. Bon, et voilà. Donc, il s'est passé à de nombreuses reprises dans le monde des tentatives de découpage comme ça par les impérialismes dominants de l'époque. Et ça se traduit généralement par des drames, des guerres. Pas beau la guerre, voilà. Civilization.
termina.
Bala perdida, la mano negra. Hélas, dans les guerres, les balles perdues ne le sont pas toujours pour tout le monde. On retrouve André.
En 1999, l'OTAN fête son 50e anniversaire. L'OTAN aurait dû être, en pure logique, on aurait dû être dissous, puisque c'était une organisation militaire destinée à empêcher l'invasion des chars russes en Europe. Il s'agissait de défendre le monde libre contre l'agression supposée, en tout cas attendue, de l'URSS. C'est encore un autre sujet, ça. Est-ce que l'URSS était disposée à étendre son influence à cette époque-là? J'en doute beaucoup. Mais enfin bref, l'OTAN aurait dû disparaître. Elle n'avait plus d'objet. En fait, 50 ans après, elle fête son anniversaire et avec le premier élargissement à l'Est de l'OTAN. La Hongrie, la Pologne, la République tchèque adhèrent à l'OTAN. Un peu plus tard, ils vont faire partie de l'Union européenne, mais ils commencent par adhérer à l'OTAN. C'est-à-dire que ces pays qui sont rendus à la liberté, puisqu'ils deviennent indépendants, la Russie nouvelle n'a pas l'intention d'envahir ni la Hongrie, ni la Pologne, ni la République tchèque. Mais ces pays se croient obligés, enfin les dirigeants de ces pays se croient obligés d'adhérer à une alliance militaire qui est dirigée contre la Russie. Ce n'est pas neutre, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Tu vas me dire, les pays sont en droit de faire... Non. Ils s'étaient engagés à ne pas étendre l'OTAN jusqu'aux frontières de la Russie. Et ça se fait quand même, tranquillement, sans réaction particulière. Hein. Voilà. On peut ajouter aussi, par exemple, que dans ces mêmes années, l'OTAN devient une alliance offensive, puisqu'elle va intervenir en Yougoslavie, sans mandat de l'ONU, hein, et en pleine... contradiction avec le droit international. Dès lors, on assiste à une dégradation quasi continue des relations entre les Russes et les Occidentaux. D'ailleurs, je vous demande de bien mesurer ce que veut dire le mot occidental. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait les États-Unis et leurs alliés obligés d'Europe. C'est ça, occidental. Donc, rien que l'utilisation du mot est déjà en opposition avec les Russes qui, eux, font partie de l'Europe de l'Est et non pas de l'Europe de l'Ouest. Hein, un mot qu'on reprend comme ça sans songer à son poids, en quelque sorte, hein, à ce qu'il veut dire. Bon. Alors c'est dramatique, cette dégradation, parce que les élites russes, au départ, ils ont beaucoup misé sur l'intégration de leur pays dans le concert des nations occidentales. Ils aimaient les Américains. Jusqu'à même au début de Poutine, les dirigeants russes, l'élite russe, est pro-occidentale, à fond. Ils sont pour faire partie de la communauté internationale. Ils en ont eu marre d'être isolés avec l'URSS. Et donc, leur premier mouvement, c'est d'aller vers... d'être un pays normal, comme les autres, à tout point de vue, n'est-ce pas, hein? Alors bon, je suis d'accord avec toi que Boris Eltsine, ça a été très très loin, puisque lui, il a complètement ruiné son pays, il l'a coupé en morceaux, etc. Mais enfin, il a participé à l'implosion de l'URSS et à l'implosion de l'Empire russe. Et en fait, l'URSS, à ce moment-là, ne se voit pas traité comme un partenaire qu'il faudrait récompenser pour sa contribution à la fin du système communiste. Au lieu, en quelque sorte, de remercier les Russes d'être sortis de cette situation de conflit permanent, on va les enfoncer. On va les considérer comme le grand perdant de la guerre froide et il doit payer le prix géopolitique de cette défaite. Il y a même des gens qui pensent à renvoyer les Ruskovs au fin fond de la taïga et réduire le pays à un petit pays vassal dont on peut exploiter les richesses, les matières premières, etc. On concède que leurs femmes sont très très belles, hein, elles peuvent travailler dans les bordels chez nous, etc. Enfin, c'est une humiliation. On humilie les Russes. C'est pas croyable ce que les gens subissent, les Russes subissent à cette époque-là. Mettez-vous à la place du peuple russe qui soutient Poutine, soit dit en passant. C'est parce qu'on leur a fait subir ça aussi. Et pourtant, l'arrivée de Poutine va laisser beaucoup d'espoir, en fait. Hein. Poutine souhaite réellement des accords avec les Occidentaux. Il va multiplier les gestes de bonne volonté. On le voit à la télé, chevaucher la pampa avec un chapeau américain, etc. C'est le philo-américanisme le plus caricatural. Mais plus sérieusement, il accepte l'installation de bases américaines en Asie centrale, au Kazakhstan. Il ordonne la fermeture des bases héritées de l'URSS à Cuba. Il opère le retrait de soldats russes au Kosovo. En échange, la Russie souhaite faire accepter par les Occidentaux l'idée que l'espace post-soviétique, qu'elle définit comme son étranger proche, relève de sa sphère de responsabilité. Concrètement, elle souhaite que l'OTAN ne s'installe pas, n'installe pas de base à ses frontières. Est-ce que c'est illégitime ? Après tout, les Russes n'ont pas de base à la porte des États-Unis. Et les États-Unis ne supporteraient aucune base militaire, ni chinoise, ni russe, ni patagouette, à côté de leurs frontières.
À cet égard, André, si on revient sur l'année 1962 et ce qu'on a appelé la crise des missiles de Cuba, hein, où les Cubains acceptent que l'URSS installe des missiles soviétiques au large de la Floride, les Américains ont pris ça très très mal. Ils n'ont pas trouvé du tout normal que les Russes viennent installer des missiles sur leurs frontières.
Oui, d'ailleurs, pour prolonger ton propos, je précise que lorsque l'affaire des fusées s'est résolue fort heureusement, puisqu'il s'agissait d'un danger de guerre nucléaire, hein, lorsque ça s'est résolu, cette crise-là, les Russes ont promis, et l'ont fait, hein, ont retiré leur base de lancement, ils n'avaient pas de fusée d'ailleurs, mais enfin, de Cuba. Donc ils ont accepté de reculer en quelque sorte. Mais en échange, les États-Unis devaient démanteler les bases qu'ils avaient en Iran et en Turquie et qui étaient dirigées donc au sud contre l'URSS. Les Américains ne les ont jamais démantelées. Je dis ça comme ça en passant, hein, pour parler de la bonne foi de l'impérialisme américain. Rappelons, hein, une chose à propos des pays de l'Est, ces pays libérés de la tutelle soviétique donc à la fin de la guerre froide. Ces pays-là, ce sont tous des pays qui ont été libérés de la domination allemande en 1945, 44, 45, par l'armée rouge, par les soviétiques. Au prix d'ailleurs d'une guerre assez effroyable. Je rappelle quand même que les soviétiques, c'était des salopards, mais enfin, ils ont versé 26 millions de morts pour nous débarrasser du nazisme en Europe. Parce que je rappelle quand même que c'est eux qui ont fait l'effort militaire le plus important dans cette guerre contre l'Allemagne nazie et personne d'autre. Si on compare les effectifs, il n'y a pas photo, ce sont les soviétiques qui ont cassé l'appareil de guerre nazi.
On a déjà regardé les chiffres des victimes militaires de la Seconde Guerre mondiale pour arriver en gros à la louche. Tu disais 26 millions de morts soviétiques, j'ai même entendu 30. Et de 1941 à 1945, les Américains auraient perdu moins d'un demi-million d'hommes, ce qui est un demi-million de trop, on est bien d'accord. Il ne s'agit pas de nier le sacrifice des pauvres gamins du Middle West qui sont venus perdre leur trip sur les plages de Normandie. On leur doit beaucoup à cela. Mais enfin, moins d'un demi-million de GI tombés au combat, Pacifique y compris, pour environ 30 millions de soviétiques, ça fait pour un GI tombé environ 60 soviétiques. Donc, c'est quand même pas compliqué de savoir à qui on doit quoi en ce qui concerne la victoire sur le Troisième Reich.
Oui, d'ailleurs, soulignons tout de suite que l'URSS a été peu remercié de cette contribution parce que dès la fin de la Seconde Guerre mondiale a commencé la guerre froide. La déclaration de Truman, c'est 1947. Les Américains décident qu'il y a deux camps dans le monde. Le camp de la liberté et de la libre entreprise, c'est eux. Et le camp du totalitarisme, du communisme, etc., c'est l'URSS et ses alliés. Les Américains prennent toute une série de mesures. C'est eux qui prennent l'initiative, en fait, de l'affrontement Est-Ouest. Toutes les initiatives ont été prises. Il suffit de regarder la chronologie. Et en particulier, la création de l'OTAN, la création de l'Allemagne de l'Ouest, etc. Et les bases militaires, tout l'appareillage de l'énorme armée américaine. N'oublions pas qu'à cette époque-là, ils ont le monopole de la bombe atomique. Ils l'ont essayé d'ailleurs au Japon, sur des populations civiles. Ils sont les seuls à avoir utilisé d'ailleurs l'arme nucléaire, je précise également. De façon d'ailleurs sans doute à dire aux Russes, vous voyez, on a le gros bâton, vous auriez intérêt à ne pas trop insister, ou du moins à reculer.
Les Russes, eux, ne se doteront de l'arme nucléaire qu'en 1949.
C'est exact. Alors, ces pays de l'Est libérés par les Russes, les Soviétiques ne vont pas les laisser dans la nature comme ça. Vu les dispositions prises par les Américains et les Occidentaux à leur encontre, ils vont transformer ces pays-là en un glacis défensif. En réalité, la tutelle soviétique sur ces pays-là n'est pas une tutelle d'ordre politique. Bien sûr, ils ne vont pas laisser l'ancienne droite au pouvoir dans ces pays-là, mais ça répond essentiellement à un besoin stratégique pour les Soviétiques. Il s'agit de mettre un tampon en face du danger occidental, car c'est eux qui se croient attaqués, alors que la propagande occidentale américaine est versée à flot, c'est les Russes se préparent à attaquer. En fait, les Soviétiques, eux, se pensent menacés. Voilà, c'est ça la guerre froide en quelque sorte. Et les pays de l'Est vont en être victimes, puisqu'ils vont tomber sous la tutelle soviétique, et cette tutelle, elle est dure. D'abord, quelques années après, les Russes vont créer le pacte de Varsovie, qui est la réponse du berger à la bergère, c'est-à-dire c'est la réponse à l'OTAN. C'est le pacte de Varsovie, 1955, qui est l'alliance militaire des soviétiques et de leurs alliés contre l'OTAN. Donc, tutelle extrêmement dure. Aucun pays ne pourra s'échapper de cette tutelle soviétique, parce que c'est considéré par les soviétiques comme une brèche dans leur système de défense. Ils s'en foutent, je dis un peu vulgairement, mais enfin, la liberté, la démocratie, ils s'en foutent, c'est pas leur problème, les soviétiques. Leur problème, c'est qu'il faut pas que la Hongrie, ou que la Tchécoslovaquie, ou que la Pologne passent à l'ouest. Parce que pour eux, c'est militaire, le problème. Et le problème n'est pas politique. Ça explique pourquoi, en 1956, ils vont réprimer durement une insurrection hongroise à Budapest, parce que ils craignent, ont-ils raison ou ont-ils tort, je ne sais pas, mais ils craignent que la Hongrie passe à l'ouest. Même chose en 1968 à Prague avec les Tchèques. Et pourtant, c'est une révolution qui est initiée par des communistes tchèques. Hein. C'est Dubček, c'est un communiste, Svoboda, c'est un communiste. Ce ne sont pas des gens qui sont anti-soviétiques. Mais les soviétiques ont tellement peur de l'utilisation qui pourrait en être faite par les Américains, c'est ça dont il est question, hein, qu'ils vont réprimer ces révolutions, ces mouvements populaires, de façon à ce que ces pays restent bien dans le pacte de Varsovie et sous la main de Moscou. Voilà, ça c'est la situation. Il faut comprendre ça pour comprendre ce qui va se passer après la guerre froide. Donc si on supprime la tutelle soviétique, le pacte de Varsovie et la domination russe sur ces pays qui servaient de tampons, de glacis défensifs, à partir de ce moment-là, l'OTAN n'a plus lieu d'exister. Surtout si, en plus de ça, les pays occidentaux et la Russie signent des traités de non-prolifération ou même de suppression des armes nucléaires, comme il en était souvent question. Parce qu'on a négocié beaucoup pour supprimer. Comme de toute façon, Russes et Américains avaient assez d'armes pour pulvériser le reste de la planète, il n'était pas nécessaire d'en faire plus. Et puis, il fallait dénucléariser l'Europe, il en a été souvent question. Et dans cette bataille-là, les Européens et l'Union Européenne, je vais le démontrer, n'ont rien fait. Dans ce sens-là, n'ont rien fait pour retenir ce qui se passait.
Juste pour revenir sur ce que tu disais à l'instant, André, ça c'est sûr, hein, de l'autre côté du rideau de fer, ils n'ont pas rigolé les gens. Hein. Et d'ailleurs, c'est finalement nous, les Occidentaux, qui avons profité de cette révolution, de l'URSS, etc. Parce que tant que les patrons de chez nous avaient peur des chars de l'armée rouge, ils étaient moins insolents qu'aujourd'hui.
C'est une question plus large.
Mais enfin, on peut aussi comprendre que quand tu as été victime d'une guerre d'extermination qui t'a coûté 30 millions de personnes, certes menée par les nazis, mais enfin, on en a parlé dans d'autres émissions avec la complicité de puissances occidentales, notamment la France et l'Angleterre. Bon, on peut comprendre que les Russes soient un petit peu tendus sur leurs frontières et se méfient. Hein, quand ça t'a coûté 30 millions de personnes, t'es un petit peu inquiet et peut-être que tu as quelques raisons de l'être.
Oui, c'est vrai que c'est pas inutile de rappeler l'histoire parce que il faut pas croire que cette histoire, même de 80 ans ou de 90 ans, ne pèse plus sur un peuple. Enfin, combien il a fallu de temps, nous, pour qu'on fasse la paix avec l'Allemagne ? Combien il a fallu de temps pour qu'on ne considère pas l'Allemagne comme un danger d'invasion, d'agression, etc. Enfin, bon. C'est pas la première fois que la Russie est en proie à la politique agressive de l'Occident. Entre 1917 et 1921. Donc la révolution bolchevique a éclaté en 1917 et il va y avoir une période de troubles et de guerre civile jusqu'en 1921. Il va y avoir une intervention étrangère. Hein. Alors je vous rappelle quand même que l'Allemagne, la France, l'Angleterre, le Japon, les États-Unis sont intervenus militairement contre ce nouvel État révolutionnaire. On ne voulait pas que la peste communiste se répande dans le monde entier. Donc on a installé après 1921 une sorte de cordon sanitaire, c'est le mot utilisé par Clémenceau, une sorte de cordon sanitaire de pays très anti-soviétiques, anti-communistes, tout autour. Pologne, Hongrie, Roumanie, Bulgarie, ces pays dirigés par des classes dirigeantes hyper réactionnaires, sont souvent des grands propriétaires terriens, si vous dites pas des magnats, etc., et des grands capitalistes. Et ces pays sont très violemment anti-soviétiques. Il y a un seul pays qui échappe un peu à ce format, c'est la Tchécoslovaquie, qui à l'époque est le seul pays démocratique parmi ces pays-là. Les autres sont dirigés par des gouvernements très autoritaires, voire d'extrême droite, hein, un pays carrément fasciste. Il ne faudra pas les pousser beaucoup pour participer avec l'Allemagne à l'agression contre l'URSS. Rappelons aussi en 1938 le pacte de Munich, signé entre Hitler, Mussolini et la France et l'Angleterre.
Les accords de Munich.
La France et l'Angleterre, à cette époque-là, laissent les mains libres à Hitler dans sa conquête de l'Est, dans sa marche vers l'Est. C'est un pacte militaire, c'est-à-dire nous n'attaquerons pas l'Allemagne tant qu'elle s'occupe des pays de l'Est, etc. Et c'est pour répondre à ce pacte, à cette coalition de fait entre les démocraties occidentales et l'Allemagne, que l'URSS va signer en désespoir de cause le pacte germano-soviétique.
Dans l'historiographie officielle, on se souvient toujours du pacte germano-soviétique que les nazis proposent aux soviétiques en 1939, alors que pendant des années, Staline a essayé d'activer une alliance avec la France et l'Angleterre pour prendre le Troisième Reich en étau. France et Angleterre ont fait la sourde oreille. Et un an avant le pacte germano-soviétique de 1939, qui est un marché de dupes, en fait, personne n'y croit. Hein. Un an avant 1939, effectivement, en 1938, on peut dire que France et Angleterre signent un pacte de non-agression avec Hitler, qui inclut en plus l'abandon de notre allié, la République tchécoslovaque. On a tout simplement trahi et abandonné ces gens-là aux mains des nazis, comme si on disait hey, « Monsieur Hitler, l'Est, c'est par là, continuez donc votre route ».
Ben oui,
c'est toujours étonnant, comme on se souvient toujours de 39, mais jamais de 38.
Bon, invasion de la Russie, juin 41, c'est le plan Barbarossa. L'URSS est destinée à être dépecée, hein, c'est le plan de Hitler. Il va mettre la main sur ces grandes terres à blé d'Ukraine, etc., de Biélorussie. Et dans cette entreprise contre l'URSS, Hitler est secondé par une quantité de pays qui ont envoyé des bataillons avec l'armée allemande. Hein, il y avait des Roumains, des Hongrois, etc. Bah, beaucoup de gens vont participer à la ruée, à la curée contre l'URSS. Bon. C'est donc avec la Russie qu'il aurait fallu faire une paix durable à partir de 1990. Alors maintenant, je voudrais un peu souligner le rôle de l'Europe, ou le non-rôle de l'Europe dans tout ça. Eh bien, il faut constater qu'au départ, les relations entre la Russie et l'Allemagne et la France, par exemple, sont assez bonnes. Ça part relativement bien. Il y a un événement qui va dégrader quand même assez vertigineusement les choses, bon, à part l'extension de l'OTAN dont on a parlé précédemment. C'est l'invasion de l'Irak en 2003 par les troupes américaines, sans l'aval de l'ONU, et qui constitue une véritable violation du droit international, dénoncée de concert par Paris, Berlin et Moscou. Donc dans cette agression, les Américains sont isolés dans une certaine mesure, puisqu'ils n'ont pas le soutien de leurs alliés occidentaux. Et je pense que cette opposition commune des trois principales puissances du continent européen, la Russie, la France et l'Allemagne, eh bien, ça va confirmer les craintes de Washington des risques d'un rapprochement russo-européen. Ben oui, parce que c'est des risques pour l'hégémonie américaine. Je pense que ça, c'est un des ressorts aussi de la stratégie adoptée par les Américains. Les Américains ne veulent pas d'un accord entre les Russes et les Occidentaux. Ils vont tout faire pour le torpiller. Et ils y sont arrivés. Ils vont d'ailleurs annoncer leur intention d'installer des éléments de leur bouclier antimissile en Europe de l'Est. Ancien bloc soviétique, ils installent des fusées. Ce qui contrevient à l'acte fondateur du traité Russie-OTAN signé en 1997. Il était dit qu'il n'y aurait pas de matériel d'installation stratégique de bouclier antimissile dans l'Europe de l'Est. Ce traité garantissait à Moscou que les Occidentaux n'installeraient pas de nouvelles structures militaires permanentes. Par ailleurs, en même temps, les États-Unis se retirent de l'ancien traité anti-balistique missile ABM, signé en 1972. Les Américains retirent leur engagement de limitation du matériel balistique. Et ceci en décembre 2001. C'est un acte hostile. On dit, ah ben non, on n'est plus d'accord, maintenant on signe plus. On n'est plus pour la limitation des missiles balistiques. C'est un acte hostile à l'égard de la Russie, quoi. Très très clairement. Alors, est-ce que les craintes de Moscou sont légitimes ou est-ce que c'est de la paranoïa? Hein? Par exemple, les révolutions de couleurs dans l'espace post-soviétique, elles sont perçues à à Moscou, enfin en Géorgie et ailleurs, comme des opérations destinées à installer des régimes pro-occidentaux à ses portes. Bon, bah, après tout, les gens font ce qu'ils veulent, hein, maintenant qu'ils sont indépendants. Mais enfin, dans un contexte où on réinstalle des bases de l'OTAN dans ces pays-là, la couleur politique des dirigeants, c'est pas indifférent, hein, que ce soit des dirigeants qui sont soumis à Washington ou des dirigeants qui sont indépendants, ou prudents simplement, c'est tout à fait différent. De fait, en avril 2008, Washington exerce une forte pression sur ses alliés européens afin d'entériner la vocation de la Géorgie et de l'Ukraine à intégrer l'OTAN. Alors même, il faut le souligner quand même, que la grande majorité des Ukrainiens est alors opposée à une telle adhésion. Il ne faut pas croire que les Ukrainiens ont toujours été sur la même ligne politique. La majorité des Ukrainiens à cette époque-là est contre. Ils ne voient pas la nécessité, l'utilité de mettre des fusées américaines contre les Russes. Dans le même temps, les États-Unis poussent à la reconnaissance de l'indépendance du Kosovo. Nouvelle violation du droit international, puisqu'il s'agit alors, juridiquement, d'une province serbe. Ainsi, c'est du moins ce que je pense, les Occidentaux ont eux-mêmes ouvert la voie de l'interventionnisme et de leur mise en cause de l'intangibilité des frontières sur le continent européen. C'est pas les Russes qui ont commencé. La Russie leur répond immédiatement en intervenant militairement en Géorgie en 2008. Voilà, les Géorgiens veulent faire la même chose, il y a la révolution, Bernard-Henri Lévy est parti là-bas s'engager, etc. Or, la Géorgie est dans le Caucase, hein, mal placée, hein, c'est sur la route du pétrole, etc., et de l'accès à la mer Noire. Pour les Russes, c'est extrêmement gênant, c'est la Géorgie. Donc, ils vont en même temps reconnaître, les Russes, l'indépendance de l'Ossétie du Sud et de l'Abkhazie. Et en cela, ils violent eux-mêmes le droit international. Mais les autres ont commencé, comme dirait l'autre, hein. Fallait pas le faire.
Après avoir été mené en bateau et provoqué, la Russie de Poutine ne va pas arrêter sa politique expansionniste à la Géorgie. Viendront plus tard la Crimée, le Donbass, etc. Et à noter d'ailleurs que nous n'avons même pas évoqué l'horrible bourbier tchétchène, comme l'Afghanistan, une sorte de Vietnam pour les Russes. André l'évoquera au prochain épisode de cet exposé. La guerre en Ukraine, on continue à en parler dans quelques instants avec la remarque sur les médias de Philippe Arnaud.
Radio Paris est mort, Radio Paris est mort, Radio Paris est mort, Radio Paris est mort.
Salut Philippe.
Bonjour.
À noter qu'au moment de cet enregistrement, nous sommes le 13 mars 2022. Le thème de ta chronique d'aujourd'hui pourrait être annexion.
Tout à fait. Pourquoi l'actuelle guerre en Ukraine suscite-t-elle tant d'indignation? Pas seulement parce qu'il s'agit de l'attaque d'un petit pays. Un petit pays, c'est relatif. L'Ukraine fait dans les 50 millions d'habitants et à la taille de la France. L'attaque d'un petit pays par un grand pays dont le régime est de surcroît autocratique et dont on peut supposer qu'un des résultats sera l'annexion ou la suggestion de l'Ukraine. Ça peut être l'un ou l'autre, c'est-à-dire l'Ukraine peut être soit réintégrée à l'intérieur d'une structure où la Russie serait maîtresse, soit avoir le statut des républiques populaires d'avant 1989. Or, ce résultat, disons prévisible, va à l'encontre d'une tendance à l'œuvre depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, celle des indépendances, celle des scissions, celle des sécessions. Cette tendance répond d'ailleurs à l'évolution normale de l'être humain, celle de l'émancipation, du départ de la tribu familiale ou autre. À l'inverse, l'annexion, voire la réannexion, apparaissent comme l'équivalent de la mise sous tutelle ou de la mise sous curatelle, dévalorisant et humiliant. En effet, des années 1940 aux années 1970, on a connu toutes les indépendances de décolonisation en Asie, en Afrique subsaharienne, au Proche et au Moyen-Orient. Et même récemment, on a eu d'autres pays qui, depuis la décolonisation, les indépendances se sont à nouveau scindées, par exemple le Soudan, avec un Sud-Soudan, ou l'Éthiopie, dont s'est détachée l'Érythrée. Mais aussi Et surtout, on les a connus en Europe depuis la disparition de l'URSS, à commencer par ce pays qui a éclaté en 15 républiques, les 15 anciennes républiques fédérées de l'URSS. Puis la Tchécoslovaquie, dont les deux entités se sont séparées. Puis la Yougoslavie, qui s'est scindée en 7 républiques, souvent à l'issue de conflits meurtriers. Depuis 1989 et la chute du mur de Berlin, en excluant les ex-républiques soviétiques d'Asie centrale, les républiques en Stan, et en comptant comme européennes les 3 républiques transcaucasiennes, Géorgie, Arménie, Azerbaïdjan, il s'est créé en Europe 18 nouveaux États. Je fais un tout petit retour en arrière pour dire qu'il convient à cet égard de se souvenir qu'en 1945, toutes les acquisitions territoriales effectuées par l'URSS à l'issue de la guerre et de sa victoire sur l'Allemagne ont été confirmées. Les territoires peuplés de Biélorusses et d'Ukrainiens, concédés à la Pologne par Lénine lors du traité de Riga de 1921 et repris par Staline en 1939, conformément à une clause secrète du pacte germano-soviétique. La frontière polonaise a été repoussée vers l'ouest. Les 3 républiques baltes, annexées en 1940, la Carélie finlandaise, la Bessarabie roumaine, la Ruthénie hongroise et enfin la région de Königsberg en Prusse orientale, enlevée à l'Allemagne et qui devint l'oblast de Kaliningrad, qui est actuellement une enclave, qui rappelle un petit peu effectivement l'enclave de la Prusse orientale de l'Allemagne avant 1939. Et pour poursuivre, et donc dans ces histoires de séparation, à l'intérieur même de l'Europe de l'Ouest, en Espagne, les volontés ou les velléités d'indépendance du Pays Basque et de la Catalogne, au Royaume-Uni de l'Écosse, voire de certains Irlandais de l'Ulster, de rattachement à la République d'Irlande. Depuis 1945, les indépendances, les scissions, les sécessions représentent donc la norme et les annexions l'exception. Le monde diplomatique, qui avait quelques années, avait même parlé de prolifération étatique avec un nombre de plus en plus grand d'États, voire de micro-États, comme on peut en trouver dans le Pacifique. À l'inverse, qu'y a-t-il eu comme annexion dans le monde depuis 1945? Alors, en dehors de ce que je viens de citer, qui était consécutif à la victoire de l'URSS sur l'Allemagne et puis les pays alliés. En Asie, l'une des premières était celle du Tibet par la Chine en 1950-51. Plus tard, l'Indonésie a annexé l'est de l'île de Timor, auparavant colonie portugaise, elle a annexé de 1975 à 2002, en y occasionnant au passage entre 200 000 et 300 000 morts sur une population de 800 000 habitants. Timor-Leste donc a été envahi par l'Indonésie pendant plus de 25 ans, un quart de siècle, sans que cela ait fait les gros titres des journaux. TF1 en avait parlé une seule fois lorsque le pape Jean-Paul II y était allé. En tout cas, ils ont réussi à recouvrer leur indépendance. Mais l'opinion mondiale, enfin occidentale, ce qu'on appelle la communauté internationale, s'en est guère émue. Toujours en Asie, enfin, si on dirait plutôt le Proche-Orient, le Moyen-Orient, l'Irakien Saddam Hussein a envahi le Koweït
en 1990.
Saddam Hussein a été chassé de sa conquête par l'opération Bouclier des déserts. Et dans le même secteur, la Turquie continue à occuper certaines portions du territoire de la Syrie le long de leurs frontières communes. En Afrique, depuis 1976 et la fin de la colonisation espagnole au Sahara occidental, le Maroc a annexé la plus grande partie de ce territoire, suscitant l'opposition tenace du Front Polisario et de l'Algérie. En Europe, la Grèce des colonels avait en 1974 tenté un coup d'État à Chypre dans le but de réaliser quelque chose qui est peu connu, qui s'appelle l'énosis, qui est le rattachement, l'union politique entre la Grèce et Chypre, en passant outre aux volontés, aux désirs, aux besoins, aux revendications des Chypriotes turcs qui sont la minorité, mais qui importaient beaucoup. Ce qui amenait par réaction l'intervention de l'armée turque et la création d'une république turque de Chypre Nord, uniquement reconnue par la Turquie dans le monde, et qui l'a transformée de facto en 82e province de la Turquie. J'en viens maintenant aux annexions les plus symboliques, celles d'Israël. Ce pays a de facto annexé la Cisjordanie et de jure annexé Jérusalem-Est et le plateau du Golan, sans que cela ait suscité de grandes oppositions internationales. Israël a mené 3 guerres contre Gaza en 2008-2009, en 2012 et 2014, qui ont causé plusieurs milliers de morts, militaires et civils, parmi les Palestiniens, sans susciter beaucoup d'émoi dans l'opinion occidentale. De même, la répression par Israël de la première intifada et de la seconde intifada. Alors la première intifada avait quand même duré de 87 à 93, c'est-à-dire 6 ans, et la deuxième de 2000 à 2004 n'a guère remué l'opinion française malgré un nombre élevé de morts palestiniens. Et il est aussi une annexion dont on n'a guère parlé. Seul le monde diplomatique a prononcé ce mot d'annexion à ce propos, celle de la RDA par la RFA en octobre 1990. En effet, loin d'être l'union de deux pays égaux au sein d'une même entité, la nouvelle Allemagne a résulté d'une liquidation par la RFA de l'économie et des institutions de la RDA et de la transplantation du capitalisme libéral dans les Länder de l'Est. En outre, les transferts d'argent vers ces Länder ont financé des biens et des services produits par des entreprises de l'Ouest, ce qui accroissait encore les profits de ces entreprises. Mais pour les habitants de l'ex-RDA, les prix ont augmenté du jour au lendemain de 300 à 400%. Les entreprises de la RDA ont été privées de leur marché intérieur et des marchés des pays de l'Est, totalement repris pour les entreprises de la RFA. La production nationale de l'ex-RDA est chutée de 70% fin 91 et le nombre de chômeurs est passé de 7 500 à 1 400 000 début 92. Il y a eu 2 millions et demi d'emplois détruits. Et comme le dit le monde diplomatique dans une formule saisissante, la population est-allemande a été jetée dans les flots du capitalisme avec une pierre autour du cou. Pour revenir donc à la présente guerre en Ukraine, actuellement, compte tenu des enjeux qu'a mis Vladimir Poutine dans cette opération, en termes de pertes militaires, de pertes financières, de risques de boycott, de désastres économiques, de revers diplomatiques, de pertes de prestige, d'inféodation à la Chine, c'est ce qui risque de lui arriver, il apparaît peu vraisemblable qu'il se contente d'une rectification marginale de frontières et qu'un des buts de son attaque risque fort d'être l'annexion de toute l'Ukraine ou sa réduction à l'état de pays satellite. Si tel est le cas, il y a peu de probabilité que cette annexion soit, comme celle du Sahara occidental, oubliée, ou comme celle de la Cisjordanie, passée par profit et perte.
Et voilà les amis, c'est ici qu'on se quitte pour aujourd'hui. Suite de l'exposé d'André au prochain épisode. En attendant, vous pouvez réécouter nos émissions sur notre site Polémix et la voix off.com, où il est aussi possible de s'abonner au podcast. On se retrouve donc très bientôt sur cette même antenne. Et gardez bien en tête que la première victime d'une guerre, c'est toujours la vérité. Salut!
Radio G. www.radio-g.fr